Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui vise ses micros comme porte-nez. Salut Thio.
Hello.
Et oui, nous sommes avec Thio. Je suis One et Pied. J'ai failli foirer, t'as vu un peu ce que
nous je sommes. Donc c'est qui les nous? Parce que nous sommes avec Thio. Donc il y a toi, il y a qui d'autre? Parce que
il y a mon autre moi.
Ton ego.
Mon ego surdimensionné. Nous attaquons donc une émission que nous enregistrons une petite semaine à l'avance. Donc en gros. Comme nous sommes en train d'enregistrer, vous allez nous entendre dans une semaine, mais en fait, nous avons enregistré il y a une semaine, même si on est en train d'enregistrer maintenant. Ça a le mérite d'être clair. Ouais, je te sens perdu, là.
Déjà que j'avais mal à la tête avant, ça va pas s'arranger. Hein.
Alors, en introduction, je voudrais rapidement parler de Marvel, les grandes sagas. Ça a commencé il y a quelque temps, ça sort toutes les semaines, c'est en kiosque, et donc c'est une BD pour pas trop cher. Basé sur un personnage, et donc nous avons dans le premier, c'était Spider-Man avec l'épisode de J. Michael Straczynski dessiné par John Romita Jr., donc des auteurs de qualité. J. Michael Straczynski ayant co-scénarisé Thor, d'ailleurs, le film, le dernier. L'histoire est pas mal, c'est une histoire qui nous emmène jusqu'au numéro, il me semble, 600, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, 500. Voilà. De Spider-Man. C'est assez ancien, mais c'est assez sympa. On voit un peu tous les méchants de l'univers Spider-Man. Je trouve ça plutôt cool.
Tous les méchants de l'univers.
Voilà. Toi, est-ce que ça t'a plu? Je trouve que, franchement, pour le prix que ça coûte, je ne l'ai plus en tête, mais c'est vraiment une misère. C'est pas mal. Les tomes suivants, comme toujours sur ce genre de série, sont un peu plus chers, mais restent très, très, très abordables. C'est dans les genres 8 euros, entre 7 et 9 euros, je crois, le tome. Ça dépend duquel. Le tome 2, c'est un Thor qui est correct sans plus, dessiné par Jean Romita Jr., qui est sympa. Je ne l'ai pas lu, mais j'en ai pas entendu le plus grand bien. Par contre, le suivant, c'est la saga Extremis, dessinée par Adi Granov et scénarisée par Warren Ellis, avec Iron Man, qui est, paraît-il, un petit bijou, et que je n'ai pas lu, et ce sera pour moi une très bonne occasion de me lancer dessus. Donc on vous en parlera sans doute dans une prochaine émission. C'est bon, t'as rien d'autre à rajouter? On peut attaquer le presque neuf, à moins que t'aies un truc spécial à dire.
Non, rien à dire. Voilà. Non, c'était bien, c'était ouais, vraiment bien.
Le en deux mots, apparemment, ça vous a un peu plu, donc on continue sur les prochaines émissions.
C'est pas facile.
C'est pas évident de trouver. Le principe, pour chaque bande dessinée, on se met d'accord, Thio et moi, pour trouver le genre, en deux mots. Et ensuite, nous trouvons chacun un mot pour définir le scénario et un mot pour définir le dessin, et on compare en direct live ce qu'on a trouvé, ce qui nous permet d'être un peu plus clair.
Enfin, on espère être plus clair.
Parce que là, j'ai l'impression de ne pas comprendre ce que je viens de dire.
Ça fait déjà deux fois. Faut que tu fasses gaffe, parce que l'émission va être longue, là. Hein.
On va attaquer le presque neuf.
C'est parti!
Et nous commençons avec... Je parlais de Thor tout à l'heure.
Ah bah là, on est raccord en plus avec le cinéma.
Ouais, Ultimate Thor. Alors, Ultimate Thor, en fait, c'est dans un numéro de Ultimate Avengers numéro 1. Vous devriez sans doute pouvoir encore le trouver en kiosque, parce que c'est le genre de truc, ça reste assez longtemps. Et ça nous raconte la genèse de Thor dans l'univers Ultimate. En deux mots, nous avons affaire à une bande dessinée de super-héros. Et d'origine. Nous racontons donc les origines d'un super-héros. Quelque chose, donc, une forme classique dans la BD de super-héros. Ça nous raconte donc comment Thor, qui est un dieu nordique, est arrivé dans l'univers Ultimate. Ce qu'on avait vaguement entrevu jusqu'ici dans la bande dessinée Ultimates, mais qui n'avait pas été détaillé. Et là, vraiment, on nous explique ce qu'il en est, comment il en est arrivé là, et comment il a pu rentrer dans le groupe des Ultimates derrière. Et à savoir si il est vraiment un dieu.
Ou si ce n'est qu'un homme.
Ou si ce n'est qu'un homme avec des pouvoirs. Et un grain de folie. Le scénario.
Allez, deux mots.
En deux mots. Genèse. Vas-y, cherche tes mots.
Je suis emmerdé, j'arrive pas à relire ce que j'ai écrit. Ah, si, ça y est.
Grrr. Le scénario, c'est de la genèse. Grrr. Et ouais. Le dessin.
Wowesque.
Puissant.
Ouais,
alors WoW West en rapport à World of Warcraft, pour ceux qui ne connaissent pas. Parlons du scénario. Donc, c'est de la genèse. Donc, clairement, on est dans quelque chose qui nous raconte la genèse d'un personnage.
Et avec toutes les bastons qu'il a pu faire depuis qu'il est...
Mais qui est très très bien amené, moi, je trouve, parce qu'on a... on travaille sur trois époques différentes.
Ouais.
Donc, les débuts mythologiques, le côté vraiment quand il était à Asgard et compagnie. Et donc là, on ne sait pas trop s'il imagine ou si c'est vrai, même si, bon, le sous-entendu irait vers le fait que ce soit vrai. Toute une époque avec les méchants, pendant la guerre, avec des méchants nazis, classiques.
Toujours.
Et une troisième période qui se situe, elle, dans un centre de recherche américain sur les super-héros, où en gros, ils sont en train de faire une analyse pour savoir s'il est fou, s'il n'est pas fou, et comment on peut exploiter les pouvoirs de ce personnage. J'ai trouvé que c'était très très bien mené, le passage entre les trois périodes. Alors effectivement, il y a de l'action, mais d'un autre côté, on est en train de dire Thor, on ne dit pas les bisounours. Hein. Et encore, les bisounours, eux aussi, ils n'arrêtent pas de se battre en se touchant les mains.
Ouais, mais en fait, du coup, là, ça fait quand même vraiment baston. J'ai l'impression, voilà, ils se font une instance, quoi. Hein. Quand ils arrivent avec les nazis à Asgard, bon là, je spoil pas. Hein. Enfin voilà, ils rentrent dans une instance et ils vont se tomber les boss au fur et à mesure, quoi. Il y a eu le premier boss, c'est Heimdall, puis ensuite ils vont tomber le deuxième boss. Puis d'abord, il faut qu'ils réussissent à prendre. Enfin,
ouais. Mais c'est du classique au niveau de la baston de super-héros. Je veux dire, ce que je trouve, c'est que pour un truc de super-héros qui raconte quand même de l'action et de la baston, c'est très très bien raconté. Et moi, je me suis pas ennuyé, j'ai même pris du plaisir à le lire. Non, ouais, t'as l'air moins.
Ouais, non, c'était sympa. C'est sympa. En plus, on retrouve un des personnages du dernier crossover.
Qui est. Volstagg.
Volstagg.
Oui. Volstagg, tiens, qui est dans le film aussi.
Ah, mais j'ai pas vu le film.
Ouais, je sais.
Toi, c'était hier soir, mais moi, je l'ai pas vu.
Voilà. Donc, au niveau du dessin, j'ai dit puissant et tu as dit wowesque. Tu as trouvé le dessin wowesque, vraiment. Alors, Carlos Pacheco au dessin. Alors, c'est Jonathan Eggman au scénario, c'est Carlos Pacheco au dessin.
Bah, ouais. J'ai trouvé que c'était quand même assez cartoon, quoi.
Moi, je trouvais que, justement, Pacheco a juste d'habitude un dessin qui est très fin. D'ailleurs, dans ses débuts, il avait un style très particulier où il y avait très peu de traits. Il jouait beaucoup sur les lacunes au niveau de son dessin, même si ça a changé avec le temps. Là, il y a un ancrage qui est un peu plus brut, qui fait que son style fait un peu penser à du Brian Hitch, ce qui, je pense, est volontaire, hein, pour du Ultimate, faire penser à Brian Hitch. Alors que, d'habitude, bah, c'est un peu plus fin et délicat. Ça reste quand même très efficace et très agréable. On est vraiment dans du blockbusters américain, mais du blockbusters qui s'est permis d'avoir les moyens d'un dessinateur qui vaut le coup.
Ouais.
Voilà.
J'ai bien aimé cette page. Enfin, dans l'histoire où tu as Nick Fury qui revient chercher Thor, on est presque dans l'actuel. Hein.
Oui, on est dans le Ultimate, dans ce qui se passe dans l'Ultimate.
Ouais, mais en fait, je pense que c'est... Alors, je sais pas s'il l'a fait délibérément, mais ça rappelle fortement... Dans le début des Ultimates, quand ils vont justement chercher Thor qui est parti en Suisse.
C'est cette scène-là qui est racontée. Voilà, c'est la même scène qui est racontée, donc c'est normal que ça y fasse penser. Ah, c'est marrant, mais ça me fait penser.
Écoute, tu vois, c'est bon signe. Ça va.
C'est bien. C'est que c'est pas mal écrit.
Allez,
donc, Ultimate Thor, quelque chose de sympathique. Donc, c'est Ultimate Avenger hors série. Ça coûte 5,40€, ce qui est plutôt raisonnable. Une saga vraiment complète. Et nous attaquons avec Ultimate Spider-Man. Le numéro 7.
Il est là.
Qui voit la fin de la saga du Caméléon.
Avec une belle couve.
Nous sommes au niveau du genre. Je te laisse nous donner le genre, puis nous faire le résumé de l'histoire.
Alors, le genre, c'est lisse.
Non, le genre, on avait dit.
Ah, pardon, mais en fait, moi, je n'ai pas noté. Et toi qui notes, ça.
Ah, d'accord. Donc, c'est du genre super-héros aventure. Bravo. Hein. Vas-y, résume-nous.
Donc, dans l'épisode précédent, pour ceux qui avaient raté, Spider-Man s'est fait casser la bouche. On lui a piqué son costume. Et il y a un autre gars qui joue le rôle de Superman.
Oui,
de Spider-Man.
De Peter Parker, à la base. Il découvre que Peter Parker est Spider-Man. C'est le Caméléon. Il a pris son identité. Et donc ?
Donc, il découvre en fait que Spider-Man est vraiment débile parce qu'avec les pouvoirs qu'il a, il pourrait quand même faire autre chose de sa vie.
Alors lui, il va faire autre chose de la vie de Peter Parker.
Il faut pas s'embêter, hein. Je veux dire, t'as une meuf, t'en profites.
Et donc, il tient prisonnier Peter Parker et
Jenna Jameson. Ah mince.
Jonah Jameson.
Jonah Jameson.
Et donc, il le tient prisonnier tous les deux. Et c'est là qu'on se rend compte que Jonah Jameson, bah, c'est... il y a ces synapses qui font une connexion.
Une pour petite... la première fois depuis 40 ans.
Voilà. Bah, je suis dans l'univers Ultimate. Non, il a mis moins longtemps à faire une connexion. Bref, un épisode super intéressant parce que bien sûr il y a les scènes de on tente de se libérer, machin chose. Enfin, on est dans du classique, on est dans de l'efficace. Il y a tous ces potes qui vont intervenir aussi derrière.
Les sept à la maison.
Oui, les sept à la maison que sont donc la torche humaine, Iceberg et puis c'est déjà pas mal.
Oui, parce que les autres sont partis.
Voilà. Un épisode super sympa.
Tu l'as défini avec quel mot, toi ?
Voilà, alors, oui, le dessin. On va commencer par le dessin, parce que ça va aller plus vite.
J'ai déjà dit, j'ai trouvé ça lisse.
Je trouvais ça fun. Je trouve qu'il y a un style. C'est donc La Fuente. Zut, j'ai oublié son prénom à La Fuente.
David.
David La Fuente, qui, je trouve, a un dessin qui est super adapté, en fait. Mais qui colle super bien à cette BD pour ados. Mais pas de la BD pour ados débilitante. Enfin, c'est un truc qui est bien écrit, qui est intelligent, c'est un bon divertissement. Et il a un style qui est fun et bien prenant et que toi, tu trouves lisse.
Mais lisse, il n'y a rien de péjoratif dedans. Hein. C'est... Les visages, ils sont ronds, c'est tout bien lissé. Alors, ça colle super bien justement à l'histoire. Hein. Il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas eu une erreur de casting de sa part là-dessus. C'est vraiment agréable à lire par rapport à cette histoire.
D'accord.
Dans un autre contexte, je pense que ce serait très vite chiant.
Oui, enfin, il ne peut pas te faire un truc plus sombre.
On est d'accord, on est bien d'accord. Mais voilà, si tu me demandes un mot, je te dis, voilà, je trouve ça lisse.
Et le scénario, en un mot ?
Pour moi, c'est une renaissance.
Dynamique. Il y a une pêche, quoi. Je veux dire, il arrive dans cette histoire-là à vraiment bien mélanger le côté... soap, avec les relations entre les personnages, qui s'aiment pas, les multiples filles derrière qu'il y a. Le côté action, le côté révélation, où on apprend des choses, où les personnages apprennent des choses.
Bah, c'est pour ça que je t'ai dit Renaissance, parce que je pense que nous, on a récupéré Ultimate Spider-Man il y a que quelques épisodes, quoi.
Oui.
Et je pense qu'à partir de là, tu peux vraiment recommencer. Surtout en plus que là, il repart un peu de zéro, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui... beaucoup d'événements, on va dire, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans sa vie de super-héros, qui font qu'il va y avoir du changement, quoi.
C'est vrai que je trouve que c'est une des séries qui gère le mieux le parti pris Ultimate, c'est-à-dire qu'on peut la prendre en cours de route assez facilement, parce que même si les relations entre personnages peuvent être plus ou moins complexes, on peut facilement raccrocher les wagons, je trouve. Donc, le Ultimate Spider-Man chez Panini Comics, ça coûte 4€, c'est en kiosque, c'est de la très bonne BD, c'est Brian Michael Bendis au scénario, n'oubliez de le dire, et c'est toujours aussi sympa.
Yep. Et là donc on passe à Accord Sensible. C'est très étrange.
Une bande dessinée qui nous raconte des chroniques et qui est musicale.
Ouais.
Alors chroniques, on avait dit.
Ah, chroniques.
Pour le genre. Que nous compte Accord Sensible?
L'histoire de six personnages, six vies qui se croisent et on va dire de ces rencontres vont découler toute l'histoire.
On est dans les années 50-60 à peu près.
Je dirais ça.
Ouais. Et donc tout autour de ça, on a toute une ambiance musicale autour du jazz.
C'est clair.
D'accord. Et ensuite les six vies qui se croisent. On va d'abord parler du dessin, parce que c'est peut-être le plus facile pour cette BD, que j'ai trouvé 60s.
Coloré.
Coloré, ah ouais. 60s et coloré. Alors pourquoi 60s ? On trouve vraiment ce côté très... la ligne, on va dire, futuriste belge des années 60. Avec, je pense à l'atomium, tous ces trucs-là. D'ailleurs, l'atomium qui est bien représenté dans une des premières planches, et je pense que c'est pas un hasard. Tout ce côté un peu qu'on qualifierait maintenant de rétro-futuriste, que je trouve vraiment très, très, très élégant, et qui passe assez bien. Et toi, coloré, vas-y, explique-toi, parce que justement, il y a un travail sur la couleur qui est intéressant.
Ben, pour moi, justement, c'est que la couleur va. Enfin, tous les passages du livre sont dans une certaine ambiance de couleur.
Il y a plusieurs chapitres qui vont s'intéresser chacun à un personnage, au point de vue d'un personnage différent. Et chacun a sa couleur.
Et chacun a sa couleur. Et cette couleur, je trouve,
elle donne tout le caractère au récit. Parce que l'ambiance au niveau couleur, bah, ça va te permettre de glisser tranquillement dans le récit. C'est voilà, moi j'ai trouvé ça super, on va dire super frais quoi.
Oui. Moi j'ai bien accroché au dessin.
Le seul truc qui m'a manqué, c'est qu'ils auraient peut-être dû, tu vois, ici, comme ouais. dans les bouquins, tu vois, du collège ou de lycée en mathématiques, où ils te mettent le CD à la fin, tu vois, avec ouais. les exercices. Là, il manquait la petite pochette CD avec, hop, tu mets le CD et tu lis ton bouquin.
Oh mon temps. Dieu, j'avais pas fait gaffe, mais les quatrièmes de couverture, on dirait une tapisserie des années 70.
Flash quand même. J'en ai eu, mes parents en ont eu des flashs comme ça, mais pas non, pas autant.
Il y avait de l'orange et du jaune, mais du vert mélangé. Hein.
Ouais.
Bon. Là, c'est pas le cas, mais le scénario.
Bah, point de vue.
Partitionné.
Quelque part.
T'as bien fait cette subtilité. Partitionné.
Tu m'as un peu quand même coupé l'air sur le pied sur le coup là.
Ouais. Ah non, je t'ai pas piqué ton mot. Mais on a discuté et le mot est parti. Donc partitionné. Alors, on va suivre le point de vue de chaque personnage qui vont se croiser. Ces personnages, qui sont-ils ? Les six. Nous avons un jeune homme qui est un musicien qui essaye de s'en sortir et qui va croiser une jeune fille dans un bar qui va oublier ses gants.
Ouais, pendant qu'il écoute un de ses potes qui lui raconte les problèmes qu'il a avec sa femme.
Voilà. On va suivre cette jeune fille.
On va suivre Simon, qui est un patron de club de jazz, je crois.
Oui, enfin bref, tous les personnages sont se mélangent.
Lester, pardon.
Voilà, oui, ça me semblait bizarre, Simon.
Ouais, ça va. Oui.
Tous les personnages se croisent, se mélangent, sur une période de temps qui est assez identique, en fin de compte. Enfin, il y a un peu du flashback, mais c'est... moi, je dis partitionné.
Tu dois avoir quoi, peut-être 15 jours ou 3 semaines d'une vie,
ouais.
Sur la durée totale. Et en fait, on va revenir en arrière pour reprendre le croisement entre les deux personnes et suivre comment est-ce que la personne a ressenti la rencontre de son côté à elle.
Je note qu'on a oublié de donner le nom du dessinateur tout à l'heure.
On va le donner après, c'est pas grave.
Ouais, franchement. Eh bien, suspense, on vous dira le nom du dessinateur après. Moi, je dis partitionné parce que j'ai trouvé que il y avait un problème de rythme qui m'a un peu gêné, c'est que à chaque fois on a des recoupements entre chaque histoire, mais au niveau de la rythmique, il y a des coupures qui me bloquent, qui je sais pas vraiment. À la fin du bouquin, moi j'ai été très perturbé à savoir c'était sympa, mais qu'est-ce que ça m'a raconté au final ? Tu vois, j'ai pas réussi à dire ce que m'avait raconté ce bouquin. À part peut-être me mettre une ambiance, m'avoir donné envie d'écouter du jazz, ce qui est sympa en soi. Mais je vois pas où me mène le bouquin, en fait. Alors, c'était sympa de suivre un peu les extraits de vie de chacun des personnages, mais Mais pas tant que ça, quoi. Je suis pas totalement convaincu.
C'est simplement... Enfin, moi, j'aurais dit c'est une histoire d'amour, quoi. Tu vois, comme ils le disent à la fin, le thème éternel, quoi. Un homme qui aime une femme, qui aime un homme, qui... Voilà.
Ouais, mais j'ai pas été totalement convaincu, toi, plus.
Trois femmes, trois hommes. 64 possibilités.
Oui.
Moi, j'étais un peu plus convaincu dans le sens où. Je suis d'accord avec toi, ça t'apporte rien à la fin de la lecture. Dans le sens où tu n'as pas. Tu n'as rien à retenir de l'histoire. Mais je trouve qu'au niveau du travail graphique, avec cette espèce de sensibilité à corps sensible, quoi. Parce que cette sensibilité que tu as au niveau de la musique, d'une atmosphère qui va se dégager d'un dessin qui est très épuré, ben voilà, ça t'offre un petit voyage.
Ouais, mais voilà, à la fin, j'ai fermé le bouquin, mais je pense pas que je m'en souviendrai énormément derrière, quoi. Ça m'a pas marqué plus que ça. L'intrigue m'a pas...
Ouais, ouais.
M'a pas emporté.
Ça aussi, hein.
Alors après, je me demande si peut-être que en analysant en tant qu'adepte du musicien, essayer de voir le rythme par rapport au rythme d'un morceau de jazz, de chercher la blue note au milieu, tout ce genre de points là, je pense qu'il y a un rapport avec la blue note quelque part, mais je suis pas assez spécialiste et je me dis peut-être que quelqu'un de plus sensible au jazz appréciera plus cette BD. En tout cas, ne serait-ce que pour le côté graphique, j'ai pris un grand plaisir à la feuilleter.
Ce qui est déjà pas mal. Hein.
Voilà, donc on peut saluer Lapone au dessin et Autière au scénario. Mais surtout Lapone au dessin en ce qui me concerne.
Yep.
C'est chez Très Étrange.
Très Étrange au prix de 17 euros.
Voilà. Nous passons maintenant au dernier Cosmonaute de Aurélien Maury aux éditions Toute Jeune Tanibis.
Alors, comment est-ce qu'on l'a défini celui-là ?
C'était de l'onirique analytique.
Nick, ouais.
Donc de l'onirique analytique. Le dernier Cosmonaute nous raconte la vie d'un personnage dont j'ai oublié le prénom.
Larry,
qui en gros est amoureux, mais a pas trop envie de changer. Lui, son rêve, c'est d'aller dans l'espace. Et
il a pas grandi, quoi.
Il a pas grandi. Il est un peu resté un môme. Et il veut pas grandir, sauf qu'il est amoureux. Et au moment où une histoire d'amour se concrétise, il faut qu'on grandisse un minimum quand même. Et là, on voit, malgré toute la résistance qu'il peut y mettre, qu'il essaye de grandir, soutenu par son ours en peluche,
Teddy,
fumeur de cigarettes.
Ouais, mais il savait pas qu'il fumait.
Qui lui donne un coup de main pour l'aider à grandir.
Bah, parce que Teddy, il a vachement mûri, lui.
Antoine Maury, c'est son premier...
Aurélien Maury,
c'est son premier bouquin. Les éditions Tanibis sont toutes jeunes, je crois que c'est le premier bouquin qu'ils ont sorti, d'ailleurs il est co-éditeur dessus. Ils ont sorti un très beau bouquin d'un point de vue technique, je trouve que c'est du beau livre, format paysage. Et graphiquement, j'ai utilisé le mot ligne claire.
Épurée.
De la ligne claire épurée, on est d'accord. Graphiquement, j'en avais discuté avec l'auteur parce que je l'ai rencontré en dédicace. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Schulz et à ses Peanuts.
Ah ouais.
Ce qui a beaucoup fait plaisir à l'auteur parce qu'apparemment peu de personnes se sont rendues compte que ça l'intéressait. Mais ça fait beaucoup penser à la ligne claire américaine des auteurs nord-américains comme Seth, tous ces auteurs modernes, comment il s'appelle celui qui a fait. Ah zut, je trouve plus son nom. Bon, j'ai un trou de mémoire, ça m'en reviendra peut-être.
Fais un time warp, tu veux.
Ouais, bon, non, on verra ça plus tard. Donc. Quelque chose qui graphiquement est vraiment superbe. Je trouve ça très très joli, très beau. Aussi bien dans les dessins qui montrent le quotidien que dans les dessins plus oniriques, qui montrent un peu les pensées du personnage, où on voit que dans ses pensées,
ou les rêves aussi. Hein.
Ouais, chacune de ses actions est une aventure. Il y a un petit côté pareil, je dirais sur Calvin et Hobbes, quoi. Chacune de ses actions, aussi banales puisse-t-elle être, est une grande aventure. Dire, voilà.
C'est la deuxième fois qu'on cite Calvin et Hobbes, deux émissions avec Petit Pierrot dernière fois. Et...
Bah ouais, faudrait que je m'achète l'intégrale, un de ces quatre. Donc le personnage, quand il fait l'amour, nous avons l'image qui nous montre à quel point en fait faire l'amour c'est une putain d'aventure cosmique.
Ouais, surtout avoir un gosse en fait. Hein.
Oui.
C'est cosmique, ouais, là.
C'est cosmique. Donc le dessin, franchement, superbe. Un travail sur la couleur tout en finesse, très joli. Moi je suis très content, donc il y a un côté format paysage et puis aussi un travail sur la mise en page qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il se permet parfois de faire des pages où il va y avoir très très peu de cases et où beaucoup de blancs autour qui vont accentuer l'intensité de ce qu'il veut montrer à ce moment-là. C'est d'une très très grande maturité narrative, je trouve, pour un premier bouquin. Ouais.
Oh ben non, je voudrais, là t'en parles vraiment bien. Attends, mais en fait ça fait plein de fois que je te dis ça aussi, faut que j'arrête.
Je parle trop bien, merci. Le scénario.
Freudien.
Maturité. On raconte le passage à la maturité du personnage. Il y a un côté effectivement freudien, avec son ours en peluche qui lui parle, avec ce pauvre Larry qui veut pas grandir et qui n'a pas le choix dans son bled paumé des États-Unis, mais alors paumé de chez paumé. Et on a un côté, donc ce qu'on disait dans le genre, le côté analytique, où... on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête du personnage et quels sont les dangers et les étapes qu'il a à franchir pour aller de l'avant et construire quelque chose.
Devenir un adulte, quoi.
Devenir un adulte. Mais ne serait-ce que, cette planche, il y a une double planche monstrueusement belle dedans. Voilà, je vous le dis, il y a une double planche monstrueusement belle dedans qui montre un moment clé de l'histoire, mais vraiment clé de l'histoire, c'est vers la fin. Regardez cette double planche qui est suivie d'une double planche, on ne peut pas dire monstrueusement belle, mais monstrueusement appropriée. Non. C'est voilà, c'est j'adore. Puis j'ai une chouette dédicace en plus, donc je n'aime
plus. Oui, plus. Tout ça, c'est juste parce que t'as un petit Eddie qui est en train de te fumer une clope, quoi.
Ouais, tout ça parce que non, c'est quelque chose de super. Tu disais donc au niveau de Freudien, parle un peu du scénario. Tu es peut-être pas autant emballé que moi sur celle-là de BD.
Alors, au niveau du dessin, moi j'ai trouvé ça très épuré, mais en même temps, je dirais, au cours de l'histoire, tu as toutes les pauses nécessaires dans le dessin pour voilà, laisser venir l'ambiance.
C'est marrant, je te demande de parler du scénario, tu reviens sur le dessin, mais ça montre que c'est très très bien imbriqué, que l'un supporte l'autre.
Bah, disons que tu as des planches où tu vas avoir presque le même dessin, juste avec un petit zoom avant, et ça va te créer ton ambiance au fur et à mesure, puis après tu vas avoir les dessins qui vont être assez bizarres ou un peu déstructurés des rêves ou de certains passages de sa vie, ou quand il va retrouver Teddy. Voilà, donc.
Ne serait-ce que la rencontre avec sa copine aussi, qui a montré de la façon dont ils sortent ensemble, où en gros la question c'est au fait, est-ce qu'on sort ensemble, quoi ?
Mais ça paraît très bien, ils ne sont jamais touchés.
Oui, mais c'est surtout lui, elle a l'air un peu plus quand même normale comparée à lui qui est.
Elle passe ses journées à jouer de la musique dans une église quand même.
Oui, mais par rapport à lui, elle c'est ce qu'elle veut. Lui, c'est. Ah, c'est le moment où on doit s'embrasser, là ? Ah, d'accord. Attends, bah, d'accord, on y va, on s'embrasse. C'est comme ça qu'on fait ?
Écoute, je dirais un partout balle au centre. Je crois qu'ils sont aussi handicapés des sentiments l'un que l'autre, quand même. Hein.
Ouais.
Même si elle, peut-être,
je dirais un peu surtout plus lui.
De tête, mais...
C'est lui qu'on nous montre aussi. Enfin, tout est... C'est son point de vue hein, qui nous est montré. Donc, c'est plus, on accentue plus sur son anormalité à lui. Enfin, son anormalité. C'est très caricatural et très exagéré, mais c'est peut-être ce qu'on peut ressentir dans les premiers émois quand on réfléchit un minimum.
Faut aller loin là quand même.
Ouais,
faut aller loin. Enfin bon, Freudien, parce que voilà, vraiment tu réfléchis, tu t'analyses beaucoup dans ce bouquin, je trouve.
Un très très bel ouvrage chez Tanibis, donc, et qui coûte, il me semble, c'est 17 euros, si je me souviens bien, ça doit être écrit derrière.
17 euros.
Qui, voilà, je ne peux que le recommander. J'ai adoré.
Et puis en plus, c'est un joli, c'est vraiment un beau bouquin.
La couverture est superbe. Attention, je vais tenter quelque chose de terrible. Préparez-vous.
Ah, je vous dis, j'attends encore là.
Do Androids Dream of Electric Sheep?
Non, t'as chié dans la colle.
Ouais, j'ai chié dans la colle. À toi.
Et donc, le livre adapté, donc, la version intégrale de Blade Runner.
Parce que Blade Runner, c'est le nom du film.
Et donc, de
c'est le livre s'appelle « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques » en français.
Ben, c'est bien comme ça en français.
Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils ont gardé le titre original.
Mais c'est une adaptation en fait, de Tipeee, c'est pour ça.
Ouais, oui, parce que c'est Tony Parker qui a fait l'adaptation graphique, on va dire.
Ouais.
Car il y a une grande particularité, d'ailleurs on va le dire dans le genre, donc on est dans un polar dystopique, pour ceux qui connaissent le roman original... car c'est un roman, il n'y a pas que des nouvelles, chez Philip K. Dick, qui nous raconte donc la vie de Rick Deckard, qui est un enquêteur un peu moisi, dont la tâche est de trouver sur Terre les androïdes qui se sont échappés de Mars, où tous les humains se sont échappés, qui essayent de se faire passer pour humains, et de les arrêter, parce qu'ils n'ont pas le droit.
Les androïdes n'ont pas le droit de venir sur Terre.
Le truc, c'est qu'il y a un nouveau modèle qui est sorti, le Nexus 6, qui, paraît-il, peut passer tous les tests, dont le test de Voight-Kampff, qui est un test qui a été mis en place, qui permet de déterminer si on a affaire à un androïde ou pas.
Soit dit en passant, je ne comprends pas trop pourquoi les androïdes veulent venir sur Terre, parce que franchement, c'est pourri.
Oui.
Mais bon.
Voilà. Mais d'un autre côté, c'est peut-être eux qui pourraient le mieux y vivre. C'est assez étrange en soi. Et donc, peut-être qu'ils veulent venir sur Terre pour devenir libres. Aussi. Bref, on rentrera dans le débat après. Et donc, Deckard, avec ses Nexus 6, se retrouve à récupérer les enquêtes de son prédécesseur qui s'est fait tuer et se dit que c'est peut-être un moyen pour lui d'avoir une ascension sociale parce qu'il est un peu payé à la com, c'est-à-dire que plus il en ramène, plus il a de sous, ce qui lui permettra de s'acheter un vrai animal. Parce que quelque chose comment, dans la religion qu'il y a, qui s'appelle, zut, j'oublie le nom de la religion, donc la religion qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que c'est très axé sur l'empathie, il faut être très empathique, d'ailleurs les androïdes sont incapables d'empathie, hein, donc ils ne peuvent pas suivre cette religion-là. S'occuper d'un animal, c'est montrer qu'on a de l'empathie, et donc que l'on est humain. Et donc lui, le problème c'est qu'il avait un mouton, qu'il est mort, et qu'il a dû acheter un mouton électrique, qui fait illusion, hein. D'ailleurs les services de réparation se font passer pour des services vétérinaires. Et il aimerait bien pouvoir s'acheter un vrai animal, parce qu'un mouton, voilà, sauf que bah, dans l'Argus, parce qu'il y a un Argus du coup des animaux, sachant que certains modèles d'animaux sont inaccessibles parce que...
trop cher.
Trop cher. Oui, parce que sur la Terre, il y a eu un gros accident nucléaire qui fait que la plupart des, à cause du nuage, la plupart des animaux sont morts. Et donc les animaux sont devenus très très rares. Bref, vous avez vu à mon résumé que c'est très dense. Et c'est pas pour rien. Parlons du scénario, ce qui est le point principal.
C'est quand même
de cette
la
BD.
Version intégrale aussi du voilà. Livre.
Moi, j'ai utilisé littéraire.
Scénario, Blade Runner.
On est quand même un décalage par rapport au film Blade Runner.
Ouais, mais j'en ai vachement chié pour trouver tous les noms. Alors du coup, bah, là, voilà, je suis à la facilité.
Il faut savoir que, il me semble, à ce que j'ai lu récemment, que Ridley Scott a avoué ne pas avoir fini le roman.
C'est fortement possible parce que c'est pas la même chose.
Voilà. Et, bah déjà, dans le résumé, vous n'avez pas tout retrouvé de Blade Runner. Le coup des animaux électriques, qui est quand même très très important, n'est pas vraiment présent dans le film.
Non.
Voilà. Et pourtant, ça a son importance dans le bouquin. C'est littéraire parce que voilà, c'est l'adaptation intégrale du texte en BD. Et ça fait un peu peur. Quand on se lance dans la lecture, il y a un petit côté étrange au départ. C'est-à-dire que quand on a un dialogue, on va avoir un carré de texte derrière qui va nous dire « Adiric ».
Oh, il n'a pas poussé autant quand même.
Non, c'est vraiment l'adaptation intégrale. Ce genre de truc, on le trouve. Maintenant, je pense que le scénario de Kadic, l'histoire de Kadic, s'adaptait assez bien.
Bon, dit-il radieux.
Oui, dit-il radieux. Tu vois, ce genre de truc-là qui nous choque au début. Et pourtant, plus on avance dans la lecture, plus on accroche derrière. Donc, ça va être difficile de parler du scénario. Donc là, on a un tiers. Hein. Ça sera en trois tomes. C'est chez Emmanuel Proust. Tiens, je ne l'ai pas dit, EP Édition. Dont on avait dit un peu du mal au niveau du prix par rapport à Last Day of American Crime. Le format, je trouve, est beaucoup plus agréable. Le prix passe beaucoup mieux. Ça coûte 19,90€. 17,90€.
Ouais.
Donc,
c'est presque aussi cher que Last Day of American Crime avec le triple de pages et en plus des bonus. Quoi.
Et autant de bonus.
Non, donc, des vrais bonus.
Franchement, très belle édition, prix très abordable. Surtout, enfin, je suis assez content. D'ailleurs, je remercie les éditions Emmanuel Proust qui nous l'ont envoyé. Donc, il y aura trois volumes. Déjà, en plus, on est au courant du nombre. Moi, je trouve ça très, très bien. Donc, bon, on peut difficilement parler du scénario de Philippe K. Dick. Moi, je suis fan, j'adore ce qu'il écrit en général. Et c'est bon, quoi.
Ouais, non, enfin, c'est bon. J'ai lu le roman.
Ouais, moi, j'ai pas lu le roman, justement. Je le découvre.
Je comprends quelque part que Ridley Scott soit pas allé au bout, parce que c'est pas non plus de la super lecture facile, quoi. C'est pas.
Ah, j'ai pas dit que c'était facile à lire.
Ça manque quand même beaucoup de fluidité dans la narration. Ça peut coincer quand même.
Ouais, ouais. Il faudrait que tu dises la trilogie divine de K. Dick. J'ai commencé à la lire et là, mon gars, tu te fais des vrillages de crâne total.
Oui, mais en fait, j'explique. Quand je lis, quand je prends un bouquin, c'est aussi pour me faire plaisir quelque part.
Oui.
Si c'est juste pour me prendre la tête, je prends juste le BO des programmes de l'école primaire, tu vois.
Ouais.
Voilà. Le dessin, parce que tu l'as pas parlé.
Le dessin. J'ai utilisé statique. Ton mot ?
Sombre.
Statique et sombre. Alors, la grande difficulté de faire l'adaptation intégrale, c'est qu'il va falloir réussir à mettre en forme et mettre en scène le texte de façon à garder, conserver le rythme et faire quelque chose d'agréable. Je l'ai trouvé très statique sur un point, c'est que le fait qu'on ait tous ces pavés de texte, on reste souvent longtemps sur une image et on a l'impression d'avoir un arrêt sur image dans la lecture.
Moi, j'ai l'impression d'avoir des morceaux du film.
Pourtant, le film est beaucoup plus lumineux.
Oui, ouais.
Il y a des néons dans tous les sens.
Ouais, enfin, pas tant que ça quand même.
Ouais.
Mais surtout, c'est que en lisant le roman, tu vas dire, tu fais un lien entre ce que tu avais comme image dans le film et
c'est difficile de passer à côté des images du film.
Voilà, ouais. Tu prends les images du film et en fait tu vas les faire coller à ta narration. Et quelque part, j'ai retrouvé ce que j'avais imaginé dans le bouquin.
D'accord.
Donc, très honnêtement, je trouve que voilà, c'est un dessin qui est sombre, qui a un joli grain et qui se prête vraiment parfaitement à l'histoire.
Ouais, le dessin passe bien. Les visages sont parfois un petit peu me gênent parfois un peu. Il manque d'expression. Quoique parfois, là, on voit une scène, par exemple, où on voit une jeune fille qui est en train de regarder la télé, et on voit son visage qui montre plusieurs expressions variées. Mais ce que je dis, on a l'impression d'avoir à chaque fois un arrêt sur image sur une expression.
Ouais, mais je trouve que ça colle bien avec l'atmosphère générale, enfin avec le monde en général tel qu'il est décrit.
Bah, je trouve qu'en termes d'adaptation littéraire, je m'attendais pas à ce que ça puisse de toute façon être aussi fluide à la lecture. Moi, c'est quelque chose qui m'a fait très peur dans les premières pages. Quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit oh là là, je vais mettre 3 ans à le lire ce truc, parce que bah il y a beaucoup de textes quand même pour de la BD.
Ouais. Et moi, du coup, je me dis là, je vais me refarcir une deuxième fois le roman entier quoi.
Voilà, bah oui, parce que c'est le roman entier. Mais je trouve que les dessins accompagnent vachement bien et c'est très très bien géré et c'était pas évident. Tony Parker, franchement, a très très bien géré sa dépression suite à sa rupture.
Ouais.
Ah, on me dit dans l'oreillette que cela n'a rien à voir et que c'est un homonyme.
Ça doit durer à porter quand même.
Dans la qualité de l'édition, l'introduction de Warren Ellis, qui est très sympathique, et les outroductions.
Ouais, c'est des bonus quoi. Hein.
Ouais, c'est du bonus avec d'autres auteurs qui parlent de Philip K. Dick et de Do Androids Dream of Electric Chip. Nous avons donc Matt Fraction, Ed Brubaker et un dont j'ai oublié
O'Bannon
qui avait travaillé sur les effets spéciaux, il me semble. Non, je dis une bêtise. Dan O'Bannon, c'est rien à voir. Dan O'Bannon avait travaillé sur le scénario d'Alien, mais ce n'est pas Dan O'Bannon. Bon, je suis un petit peu largué. Il y a aussi les couvertures originales et puis il y a aussi des couvertures faites par Bill Sienkiewicz.
Rockne O'Bannon.
Oui.
C'est Farscape.
D'accord, scénariste de Farscape, oui.
De Sequest, Police des Mers.
Ah, Sequest, un grand moment.
Et Farscape.
Ah ouais, c'est un spécialiste des effets spéciaux d'époque.
Et il est aussi à l'origine du film Alien Nation, en 88 avec James Caan.
Ah oui, Alien Nation, j'en avais entendu parler. Un gars qui a fait de la SF, quoi. Bref, quelque chose de sympa. Il y a des dessins de Bill Sienkiewicz. Alors, des dessins de Bill Sienkiewicz, pour ceux qui connaissent Bill Sienkiewicz, c'est dans sa période ultra numérique, bien zarbe. C'est pas vraiment les trucs. J'adore Bill Sienkiewicz, mais là, non. Et les couvertures originales qui sont sympathiques.
Un très beau bouquin. Et oui. Là, vraiment, ça peut valoir. Non.
Oui, ça non, vaut franchement, le coup. Ça vaut son prix.
Ça vaut le coup et ça vaut son prix.
Il y a de la lecture. Je veux dire, même si on me l'a envoyé, je l'aurais acheté, j'aurais pas eu l'impression d'être arnaqué. Quoi. Loin de là.
Non, ouais. C'est moi qui l'ai toujours en travers.
C'est toi. Oui, mais bon, ça m'est arrivé sur d'autres bouquins. On va pouvoir passer à l'intégrale.
Yes.
Et là. Intégrale.
Je suis ton père.
Naguère les étoiles de Boris et Spiessert. Collection Shampoing chez Delcourt. Notons que je pensais que la collection Shampoing n'avait qu'un seul format, c'était genre les gros bouquins recueils de notes de blog. Et non, ils ont aussi un autre format, c'est le format classique. Tout ce qu'il y a de plus normal, couleur, cartonné, etc. 3 tomes qui nous racontent
la vraie trilogie.
La trilogie de Star Wars. C'est un hommage à Star Wars. Et d'ailleurs, au niveau du genre, nous avons dit que c'était de l'humour Star Wars. Car Star Wars a créé un genre lui-même. Et là, c'est bourré tellement de références à Star Wars. Un jour, on trouvera le temps je trouverai le temps de finir tous les bouquins Star Wars qu'on a piqués à notre pote pour en parler.
Ouais, parce que si un jour il vient aussi.
Ce serait bien qu'il en parle parce qu'il s'y connaît mieux que nous sur l'univers Star Wars. Clairement, on sent le boulot de fans, de gens qui aiment Star Wars. 3 tomes qui chacun nous font le résumé de chaque film, avec aussi une petite caricature, ne serait-ce que dans le 4e de couverture, avec les dessins de tous les personnages et surtout est dessiné le petit trou qui permet de mettre ça dans les rayons, genre comme si c'était le truc de collection de figurines. pour bien insister que n'oublions pas que Star Wars est aussi un phénomène mercantile qu'on ne peut nier.
Non.
Et donc, nous suivons les aventures de tous nos personnages que sont Jean-Luc Hollecoeur, Benoît le Cénobite, Spéléo le Druide, Ravi Ravi, qu'on appelle R2, qui est aussi un druide, Yann Carsolo, un aventurier breton, la princesse Leïka, Meshui, c'est l'ami de Yann Carsolo, Maître Yoga, et etc., et qui lutte contre le méchant Seigneur Salvador.
Mais aidé par Aldo l'Arménien, quand même. Toi, tu l'as pas, parce que ça, c'est
dans
le 2
et 3. Aldo l'Arménien, c'est dans le 2 et le 3.
Ah, il y a Jean Balbitre.
J'ai trouvé que Aldo l'Arménien, j'ai été mort de rire quand j'ai lu le Aldo l'Arménien. Sachant que c'est Lando Calrissian, je trouve ça génial. Bon, au niveau du scénario, c'est débile, c'est mon mot.
Au niveau du scénario, j'ai mis régressif.
C'est du débile régressif, c'est très bien résumé, je crois. Parce que bon, le scénario, on le connaît. C'est exactement le scénario de Les Gardes des Étoiles, mais retranscrit dans un univers médiéval fantastique.
Totalement parodié.
Voilà, et retranscrit dans un univers médiéval fantastique.
Et totalement parodié.
Et retranscrit...
Putain, zap, passe à la suite. Oui,
il faut savoir que chaque page comporte en gros deux gags, parce qu'en gros, on a quatre... En fait, on est vraiment dans le strip de deux planches. On est vraiment dans le strip de deux lignes.
Hein, je suis dans le strip de planches, moi, je suis comme ça.
Ouais. Donc, à chaque fois, on pourrait couper les pages en deux, parce que s'arrange pour essayer d'avoir deux gags par planche, hein, pour résumer. À peu près. Il y a vraiment une volonté de faire de l'humour de strip, avec des chutes dans tous les sens, et forcément, sur quelque chose comme 92 gags par épisode, il y en a des plus ou moins drôles. On sera d'accord.
Ouais, mais ça... Non, dans l'ensemble, ça...
Et oui, puis en plus, il peut se permettre, sur quelque chose d'aussi long, de faire des running gags... qui sont assez sympas, avec par exemple Salvador qui a du mal à savoir quel est le boulot de chacun de ses gardes, s'il est albalétrier ou arquebusier, et qui les tue à chaque fois qu'il lui donne qu'il dit qu'il n'a pas raison. Voilà. Nous avons des clins d'œil dans tous les sens. Je pense que certains des vaisseaux sont grandement inspirés du jeu sur iPhone et Android Angry Birds. Certains des vaisseaux, puisque leurs vaisseaux, forcément, c'est des oiseaux. Nous avons le faucon millénaire qui, pour le coup, est un faucon millénaire, mais vraiment vieux, quoi. Ne faire que les droïdes soient transposés en druides, et bien sûr Ravi, donc R2 qui ne parle pas un mot, donc on comprend rien à ce qu'il dit.
C'est l'Indien.
Ouais, c'est l'Indien, c'est logique. Et Spéléo, le druide qui traduit tout. D'un point de vue du scénario, moi, j'ai pris un vrai plaisir à le lire. C'est débile, c'est clair. Faut aimer ce genre d'humour. Moi, j'adore. Faut aimer Star Wars pour l'apprécier aussi, clairement. Hein. Si vous aimez pas Star Wars, vous allez perdre les trois quarts du bouquin. Il y a des gars qui vous feront peut-être rire, mais vous allez perdre trois quarts du bouquin.
Voilà, faut avoir aimé Star Wars. Faut déjà bien se rappeler de la trilogie.
Oui, parce qu'il y a des blagues qu'on peut comprendre que si on voit à quoi ça fait référence. Jean-Luc qui, quand il s'amuse avec l'épée de son père, s'amuse à faire wong wong, et que le gars lui dit mais n'importe quoi, ce garçon a perdu la raison. Ils se battent en faisant des bruits de bouche, tu vois. Enfin, c'est j'ai bien aimé le dessin.
J'ai dit happy,
simpliste.
Ouais, c'est du happy. Simple qui te rend happy, quoi.
Voilà, c'est joyeux, c'est simple, les personnages ont un petit côté SD. Tu sais, qu'on a dans le manga, quand les personnages sont super déformés, en tout petit, avec une grosse tête. Bah, là, ils sont tout petits avec une grosse tête.
Mais tout le temps.
Tout le temps. D'ailleurs, pour le coup, Maître Yoga a l'air pas beaucoup plus petit que les autres. c'est efficace. Il y a un travail sur la couleur qui m'a beaucoup fait sourire. Un travail sur les tramages. Il y a des tramages très grossiers au niveau des couleurs, qui sont forcément volontaires, parce qu'avec les techniques d'impression qu'on a maintenant, on peut quand même passer à côté. Tu le vois sur, par exemple, la couverture du tome 1, on le voit assez clairement. Alors, c'est pas sur toutes les couvertures, mais à l'intérieur, ça y est à chaque
oui,
fois.
Oui, sur les oiseaux, si tu le vois, parce que c'est vraiment des grandes, des grandes planches à des moments, oui, tu le vois.
Voilà, et... donc je trouve que c'est assez intéressant, ça donne un côté un petit peu oldies à l'ancienne, volontaire, pour montrer, ça accentue le côté hommage aussi, parce que clairement, on ne peut pas écrire un truc comme ça sans aimer Star Wars. Voilà. Ne serait-ce que la double page des second et troisième de couverture, avec Jean-Luc Hollecoeur qui regarde les deux lunes jumelles de son désert. Voilà. Enfin, c'est quelque chose... J'ai passé un grand moment, beaucoup de plaisir à le lire.
Non, c'est vraiment... ça se lit très très facilement. C'est à voir.
Ce qui peut être surprenant, c'est quand on connaît Boris et Spicer, qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Moi, je connais principalement... Alors, j'ai déjà feuilleté vite fait Ingmar et ces trucs-là. Mais on va parler, par exemple, du Stereo Club. J'ai lu le premier qui s'appelait Britney Forever. Où là, pour le coup, le style graphique n'a rien à voir. On reconnaît un petit peu le côté déformé, mais on a un côté plus crayonné, par exemple. Et l'histoire n'a rien à voir. On est dans de l'humour, certes, mais quelque chose d'un peu plus intimiste. On aime bien ce mot, One Eye Club, qui était sorti chez Poisson Pilote à l'époque. Bref, voilà. C'est assez surprenant de voir comme ils arrivent à réinventer leur style pour l'adapter à quelque chose de différent. C'est le genre de truc que je verrais très très bien passer dans le magazine des fans de Star Wars à raison d'un strip par numéro. Il pourrait tenir 92 fois 3 quelques années. Ça passerait très très bien.
Non, et puis les coups en plus font bien, ça fait bien les références quand même aux couvertures d'époque, quoi.
Oui, avec toujours ces personnages en gros plan.
C'est héroïque, quoi. Ouais, c'est épique.
Ces compositions triangulaires et les personnages en fond, à moitié transparent. C'est beau. La guerre des étoiles. Collection Shampoing chez Dupuis. Ça doit coûter dans les 9,50€.
Chez Delcourt.
Delcourt.
Oh, dis-donc, toi, les éditeurs en ce moment, ça te connaît. Hein.
Oui, ça me connaît. D'ailleurs,
puisqu'on
parle des éditeurs, ça me connaît. On va passer, introduisons la rubrique. Rubrique online. Je m'accroche au fouet de Thio pour me rattraper. J'ai dit dans un des précédents épisodes que les aventures de Michael Guérin allaient sortir chez Warum Vraum. Alors oui, j'aime beaucoup Vandril et ce qu'il fait. J'aime beaucoup Warum Vraum. Mais c'est pas lui qui va le faire. En fait, vu qu'il est sur le portail lapin.org, c'est Lapin qui va l'éditer. Oh, et donc, pour notre rubrique online, pour me faire pardonner, j'ai décidé de parler du portail Lapin. Lapin.org. Lapin est un vieux projet lancé par FIIP. F-I-I-P. P-H-I-I-P. Tu vois, je fais des fautes de partout aujourd'hui. FIIP qui avait commencé à sortir sa BD qui s'appelait Lapin, qui montrait un lapin qui était fait avec une sorte de chaussette à la main à l'époque. Ouais, genre le lapin que tu tiens dans la main chaussette. Qui était un truc d'humour absurde, débile et assez adulte, mais que j'avais suivi un moment et puis j'avais malheureusement laissé tomber pour je ne sais quelle raison. J'ai redécouvert un petit peu le portail et j'ai découvert que waouh, ça avait vachement grandi en fait, Lapin. Je savais qu'ils avaient commencé à avoir d'autres auteurs qui étaient dessus, dont par exemple Ninja Blanc, dont j'avais entendu parler. Et ils ont continué à accueillir plein de choses et des traductions. Et j'ai remarqué qu'en fait, ils traduisent beaucoup des trucs que je dis en anglais. Donc par exemple, Oglaf, qui est du médiéval fantastique débile avec un humour très 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 sexuel, bourré de cul non-stop, donc forcément très drôle, avec un dessin très très élégant. Avec aussi XKCD, qui nous fait de l'humour d'informaticien avec du dessin bonhomme bâton minimaliste, qui peut faire mal au crâne tellement des fois on comprend rien, mais qui des fois a des petits bijoux, il arrive à rendre les mathématiques poétiques. C'est quand même fort. Ouais, voilà. Je t'ai pas montré les bons strips dans ce que je t'ai montré tout à l'heure.
Ouais, enfin, en même temps, j'en ai compris qu'un, c'est celui sur Ubuntu. Hein.
Oui, c'est vrai. Non, mais qui donnait la phrase magique à sortir pour botter en touche avec condescendance. Excuse-moi, mais je n'y connais rien donc Pokémon. Et puis, il y a aussi donc, Michael Guérin dont on a parlé et un paquet d'autres séries. Lapin qui est revenu dans une nouvelle forme, plus dessinée. J'en ai lu quelques-unes derrière. Je connais pas tout, je peux pas citer, mais il y a une vingtaine de BD présentes. Certaines sont finies. Franchement, le projet grandit. Et forcément, quand on a tant de BD et qu'on les aime et qu'on trouve ça bien, on finit par vouloir les sortir en papier. Et donc, Lapin est aussi devenu un éditeur et nous sort donc toutes ces histoires qui sont toujours axées sur un côté humoristique, c'est toujours de l'humour, c'est toujours parfois très très décalé, parfois décalé au point qu'on sait pas trop pourquoi on doit rire, je dois l'admettre. Ça plaira pas à tout le monde. Toutes les BD ne plairont pas à tout le monde. Mais il y a une certaine richesse qui fait que chacun pourra y trouver son bonheur. C'est lapin.org. Je m'excuse auprès de FIP et de Un Pied pour cette erreur terrible. Et continuer à lire leurs œuvres de grande qualité. Ça va, ça faisait un peu assez susboule là, dans le
ouais, de grande qualité. Je crois quand même deux AV et un pater aussi. S'il
d'accord. Plaît. Nous avons fini avec notre émission.
Yes.
Yeah. On va pouvoir enregistrer la suivante. Yes.
Et il est pas tard en plus.
Ouais, on est trop trop fort. On a tenu 50 minutes à peu près. C'est plutôt raisonnable. Désolé, vous trouvez ça court. Chacun a qui se peigne quand c'est court. Je voulais parler quand même de nos auditeurs qui apparemment donc, ont bien aimé le En deux mots. Ce qui fait toujours plaisir quand on fait un nouveau truc et que ça plaît. Et je voulais parler aussi du mail de Boubor qui nous dit qu'il a découvert il y a 2-3 semaines le podcast et qu'il a tout écouté.
Et là ?
Là, chapeau. Ouais, bravo. Bravo Boubor.
Parce qu'il s'est quand même farci peut-être quoi, presque 30 heures d'émission
Oui, oui, pas loin de 30 heures d'émission. Chapeau. Non mais surtout...
Il nous a supportés pendant 30 heures.
Après avoir écouté les deux premières heures, il a continué. Quoi.
C'est dire,
ça nous fait grandement plaisir. Et qui, bah, en gros, bah, disait du bien, qu'il aimait bien la chasse avec les invités, qu'il trouvait qu'il y avait une vraie différence de goût entre nous, qu'on apprenait à connaître nos goûts. Et qu'on parlait de séries, même qui ne le branchaient pas forcément, mais pourquoi pas, que ça l'intéressait, par exemple, qui n'était pas à fond de comics, bah, c'est vachement bien. Moi, je suis content quand je dis ce genre de commentaires. Continuez à laisser des commentaires, aussi bien sur le blog, sur iTunes, parce que sur iTunes, ça nous met un peu de visibilité, ça nous permet de passer sur les pages de garde et que plus de monde nous écoute. Sur Facebook, sur la page Facebook d'ailleurs, je mets de temps en temps 2-3 trucs un peu inédits, genre des dédicaces qu'on a récupérées, ou je mettrai peut-être un de ces quatre du bêtisier, des bouts d'émissions que j'ose pas mettre dedans. Sur nos invités, des fois, on a
non,
des trucs
assez énormes. Tu mettras jamais un truc sur Facebook.
Ah ouais?
Non.
Pourquoi?
Je suis contre.
T'es contre? Bon, d'accord. Je lui dirai pas. Il saura jamais. Et donc.
Vu que j'y vais jamais, c'est sûr, je saurai pas. Mais bon, quand même.
Et donc, bah, on vous dit au revoir. La semaine prochaine, nous devrions avoir un invité, mais je sais pas qui. Car on est super à la bourre sur l'organisation.
En fait, on a Warren Ellis qui vient, mais on voulait pas trop vous le dire.
Voilà. Chut, garde le suspense. On se retrouve donc la semaine prochaine avec je sais pas qui.
Warren Ellis.
Le fantastique je sais pas qui, franchement. J'adore ce qu'il fait, il faut absolument que vous écoutiez cette émission. Et
Fabien Fellman.
Et donc
il y a Jules Kessala qui vient.
Ciao, à bientôt.
Ciao.